Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute des investisseurs pour ce 8 avril 2026. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, journée mouvementée hier. Peux-tu nous en parler et peut-être aussi des nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Bien sûr. Donc, hier, on était mardi. On avait un temps limite pour qu'une entente soit conclue entre l'Iran et les États-Unis sous menace là, d'attaque là, sévère. Et à la dernière minute, donc les marchés ont commencé hier en forte baisse. Par contre, à la fin de la journée, c'était relativement neutre. Là. Les marchés ont terminé légèrement en hausse au Canada, légèrement en baisse aux États-Unis, là, mais très marginal. De sorte que cette semaine, on a un ton légèrement mieux. Depuis une semaine, le TSX est en hausse de 1,4, le S&P 500 en hausse de 1,3, le Nasdaq en hausse de 2, le marché Europe-Asie sur le MSCI Europe-Australie-Asie en hausse de 0,8. Et là, hier, entente, trêve de 2 semaines, le pétrole ce matin baisse de 15%, les marchés européens en hausse de 5,3%, le marché japonais en hausse de 5%, les contrats à terme sur indice boursier aux États-Unis, le Nasdaq est en hausse de 3%. Donc là, on parle juste ce matin avant l'ouverture. Donc on verra à la fin de la journée qu'est-ce que ça va donner. Mais pour l'instant, on s'attend à une journée aujourd'hui, mercredi le 8 avril, dans le vert foncé. Là, ça devrait très bien fonctionner. Sur la nouvelle également, les taux d'intérêt ont baissé, autant du côté américain que canadien. Donc, aux États-Unis, les taux la semaine passée, on était à du 4,31, on est à 4,24 environ. Sur les 10 ans Canada, on est passé la semaine passée de 3,43, on est à 3,39 environ. Donc, légère baisse. Le dollar canadien reprend aussi légèrement du poil de la bête, là, donc petite hausse. Et même l'or, hein, puis ça, c'est un peu contrarien, là, dans le fond. L'or, on s'attend à ce que ça performe bien quand il y a de l'incertitude. Puis là, c'était vraiment l'inverse. L'or a été fortement corrélé avec les actions dans la dernière quelques semaines. Donc aujourd'hui, les marchés boursiers montent, mais l'or aussi augmente d'environ 130 $ l'once. Donc le rôle de l'or dans un portefeuille est typiquement d'être un actif non corrélé pour diversifier. Et là, au contraire, ça vient même amplifier, on dirait, les effets de la bourse. Donc c'est pas pour l'instant, le très, très productif.
Bien, merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui a été suggéré par Michel il y a quelques semaines. Et on trouvait que c'était bon, puis on voulait trouver le bon moment. Et arrive la situation avec Boralex, que tu vas en parler. Et on trouvait que le moment était propice pour en parler. Donc, on va aborder le sujet aujourd'hui des droits de vote dans les sociétés cotées en bourse.
Ouais.
Quand on achète une action, on pense souvent juste au rendement, peut-être aux dividendes qui sont inclus dans les rendements, mais moins au pouvoir qui vient avec. Et pourtant, tous les actionnaires n'ont pas nécessairement le même poids dans les décisions, mais on a quand même un rôle à jouer, on peut jouer un rôle. Donc, on va commencer par la base. Martin, quand un investisseur achète une action d'une société cotée en bourse, est-ce qu'il obtient toujours un droit de vote?
Bien, la plupart du temps, c'est oui, mais la question, elle est précise. Est-ce qu'on obtient toujours un droit de vote? La réponse est non. Il y a certaines actions qui sont non votantes. On a quand même, en tant qu'actionnaire, selon les situations, il faut comprendre que quand j'achète une action en bourse, là, je deviens en partie propriétaire de l'entreprise. Au même titre que quelqu'un qui a une petite entreprise, là, un plombier qui a sa petite compagnie, il est actionnaire à 100% de son entreprise, il prend toutes les décisions. Ben, si j'achète des actions de la Banque Royale, je suis en partie avec des dizaines de milliers d'autres investisseurs propriétaires de la banque et j'ai le droit d'exercer mon pouvoir. Donc, en général, si j'achète des actions ordinaires de l'entreprise, j'ai à peu près toujours un droit de vote. C'est pas toujours, mais presque toujours. Et il y a une notion aussi d'action privilégiée où là, il y a des droits de vote qui sont restreints à ce niveau-là. On est privilégié au niveau du dividende, mais pas au niveau du vote sur les opérations courantes.
Bien, puis peut-être juste parler un petit peu plus de ça. On vote sur quoi exactement?
Oui, on vote. Donc, l'actionnaire, son vote principal va consister à choisir le conseil d'administration de l'entreprise. Donc, à chaque assemblée annuelle, on va d'abord voter sur est-ce qu'on est d'accord avec les 6, 8, 10, 12, 15 personnes qui sont proposées un par un. Donc, est-ce que je vote pour monsieur un tel pour être sur le conseil d'administration de la compagnie, oui ou non? Une fois que le conseil d'administration est choisi, on doit voter sur quelle firme de comptable sera le vérificateur des états financiers de l'entreprise. Évidemment, on, en tant qu'actionnaire, moi, j'ai le droit de savoir que les résultats financiers de cette entreprise-là sont véridiques, qui sont bons. Donc, on doit mandater une firme de comptable et c'est les actionnaires qui vont confirmer le choix proposé par le conseil d'administration. Puis, ça peut être aussi toutes sortes d'autres mesures, là. Ça peut être des consolidations d'actions quand une entreprise, son prix d'action est très bas. Ils peuvent dire, ah, ben, on devrait regrouper les actions 10 pour 1. Donc, ça fait l'effet d'un vote. Si on vend l'entreprise, donc dans le cas qui nous concerne, dans le cas de Boralex, par exemple, la compagnie a accepté une offre de rachat, ben les actionnaires doivent se prononcer, là. C'est pas le président qui décide, c'est pas le conseil d'administration qui décide. C'est nous, en tant qu'actionnaires, qui va dire, ben, est-ce qu'on accepte cette offre-là? Donc, il y a des conditions de vote. C'est pas tout le monde qui vote de la même façon. Donc, il y a une notion d'actionnaire de contrôle. Donc, si un groupe ou un actionnaire détient plus que 10% d'une compagnie, il est considéré comme un actionnaire de contrôle. Donc, son droit de vote dans le cas d'une prise de contrôle, puis c'est un peu le cas dans le cas de Boralex, il y a comme deux votes. Donc, deux tiers des actionnaires doivent approuver la transaction, incluant là, tous les actionnaires, mais aussi 50% des actionnaires qui n'ont pas le contrôle. Donc, dans ce cas-ci, la caisse de dépôt est un actionnaire de contrôle qui a 15% des actions. Ben, eux, ils vont être exclus du deuxième vote, si on veut, et 50% des autres actionnaires ordinaires, là, vous, toi, les clients, ils doivent accepter à la majorité simple, 50% plus 1, cette transaction-là en excluant l'actionnaire de contrôle. Donc, ce vote-là doit... c'est ça la démocratie. On est tous propriétaires de l'entreprise, donc on a le droit de se prononcer si on est d'accord avec la décision que le conseil d'administration recommande.
Bien, je pense que c'est important de dire qu'on est propriétaire de l'entreprise parce qu'on est un peu divorcé de cette réalité-là avec tout ce qui est électronique. Hein. On regarde notre portefeuille sur notre téléphone, on voit des cotes, mais peut-être des fois on n'absorbe pas qu'on est réellement propriétaire d'une partie. C'est une petite partie, mais ça fait qu'on est propriétaire pareil. On entend souvent dire une action, un vote, t'as touché un peu, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours aussi simple. Peux-tu nous expliquer pourquoi?
Donc, il existe une notion d'action à dual class, là, donc deux classes d'actions. Des fois, il y a des grandes entreprises qui ont deux, trois, quatre classes d'actions. Donc, souvent, on voit ça beaucoup en technologie. Mais pas que en technologie, là, il va y avoir les fondateurs d'une entreprise, bien souvent, au moment de se lancer en bourse, veulent quand même garder le contrôle sur les opérations de l'entreprise. Donc, ils vont s'octroyer des actions multivotantes. Et les actions qui sont vendues au public sont des actions à un vote. Donc, par exemple, le fondateur, il y a une action, mettons, et cette une action-là lui confère 10 votes par action. Alors que nous, humbles mortels qui achetons les actions sur le marché public, on a peut-être une action ordinaire, donc un vote pour chaque action. Au Canada, donc, si on veut quelques exemples là, dans le passé, et souvent on va retrouver ça, là, les titres là, qui ont des un point A, point B, là, tu sais, Bombardier, BBD, point B. Pendant longtemps, groupe CGI, il y avait, les fondateurs avaient des actions multivotantes. Là, maintenant, c'est éliminé, cette classe-là. Même chose, Couche-Tard. Pendant très, très longtemps, ils avaient des actions multivotantes. Cette classe-là a été éliminée, puis là, tout le monde est au même pied. Au Canada, la plus grande entreprise qui a une classe d'actions multivotantes, c'est Shopify, qui est une entreprise de technologie. Donc, Toby Lutke, le fondateur, détient 6% des actions de l'entreprise, mais 40% des votes en raison des actions multivotantes qui s'est octroyées. Donc, c'est pas toujours une action, un vote, et ça fait partie un peu de la décision d'investissement. Il faut un peu savoir comment est contrôlée cette entreprise-là.
Puis d'un point de vue investisseur, ça peut quand même sembler déséquilibré. Quels sont les avantages, mais aussi les risques d'investir dans une entreprise où les droits de vote sont concentrés entre les mains de quelques personnes?
Ben, tu le mentionnes, il y a des avantages et des inconvénients. L'important, au moins, c'est de savoir, tu sais, donc de savoir qu'est-ce qu'on achète en tant que propriétaire de l'entreprise. Il y a certainement des avantages. Donc, le fondateur qui a investi là, souvent toute sa vie dans cette entreprise-là, il a certainement pris des bonnes décisions pour amener, ne serait-ce qu'une entreprise naissante jusqu'au marché public. C'est déjà un accomplissement en soi de devenir public. Donc, on comprend les intérêts de l'actionnaire de contrôle de vouloir un peu continuer dans cette voie-là. Puis, s'il a été toujours un très bon gestionnaire, ben, ça fait partie de notre décision de lui faire confiance, de continuer d'être un bon gestionnaire. Par contre, c'est pas toujours le cas, hein. Des fois, on peut y avoir certaines dérives au bout de tu sais, quelques années, quelques décennies. Ça peut aussi écarter nos intérêts à nous des intérêts du fondateur. Donc, des fois, bon, ça peut être l'ego qui rentre un petit peu en conflit avec les intérêts des petits actionnaires. Donc, ça, il faut quand même faire attention à ça. Quels sont nos droits? Aux États-Unis, tu sais, beaucoup en technologie, là, Google a plusieurs Alphabet, en fait, là, plusieurs classes de vote. Meta aussi. Mais aussi Berkshire Hathaway, donc la compagnie de Warren Buffett, il détenait des actions multivotantes, il contrôlait totalement la destinée de Berkshire Hathaway. Je dis totalement, là, pas à 100%, parce que les petits actionnaires avaient quand même droit de vote, mais il y avait des droits de vote multiples. Puis on s'entend, là, pendant quoi, 70 ans, là, il a fait un excellent travail, là. Donc, c'est pas toujours négatif, c'est pas toujours positif. L'important, c'est d'être conscient de qu'est-ce qu'on détient.
Puis, j'aimerais qu'on passe, là, je te lance une question un peu du champ gauche parce que c'était pas prévu, mais je pense que c'est important de comprendre que les compagnies de fonds détiennent une grande partie des actions, les BlackRock, les Fidélité. Donc, ils ont un pouvoir de vote parce que nous, on détient le fonds mutuel et le fonds mutuel va acheter certaines compagnies. Ils ont quand même un pouvoir de vote dans ce processus-là.
Et beaucoup plus d'influence que toi et moi,
Oui.
right? Donc, tu sais, si je suis la caisse de dépôt, si je suis le fonds de pension de Canada, là, puis je détiens, tu sais, 20% d'une entreprise, des millions d'actions. Bon, un, quand je téléphone à la compagnie, le président répond, puis il répond à mes questions parce que j'ai 10, 15, 20%, donc je suis un actionnaire très, très important. Et les fonds et les gestionnaires de fonds de pension votent également. Bien souvent, quand il y a des grosses transactions, par exemple, dans le cas de Boralex, la caisse de dépôt est un gestionnaire institutionnel, était un actionnaire important. Donc, ils ont avant même d'annoncer la transaction, la caisse avait déjà une entente avec Boralex, Brookfield et la caisse pour dire oui, parfait, notre 15%, là, on va voter en faveur de la compagnie, puis ils signent un contrat à cet effet-là. Donc, c'est très important aussi même d'un aspect socialement responsable, là, si on veut, on parle de ESG. Ben, les gestionnaires, tu sais, on peut dire, ben, j'achète pas telle entreprise. Ben, ça changera pas vraiment le comportement du management de l'entreprise. Mais si, comme actionnaire, les Fidélité, AGF, Manuvie de ce monde, là, votent et influencent le conseil d'administration pour dire, on veut que vous amélioriez vos pratiques environnementales, sociales, gouvernance, ben, ça a beaucoup plus d'influence, là. Et à la rigueur, des fois, on voit ce qu'on appelle des proxy fights, là, des batailles de procuration, où un gestionnaire institutionnel peut essayer de remplacer le conseil d'administration par d'autres administrateurs qui sont plus en ligne avec les intérêts de ce qu'eux perçoivent comme étant les meilleurs intérêts des actionnaires.
Il y a des actionnaires qui prennent ça très au sérieux. Je me rappelle dans le temps, puis je ne sais pas s'il est encore là, mais il y avait le Robin des banques, tu te rappelles? Puis lui, il allait à tous les conseils, puis il participait, puis il posait ses questions, puis il considérait que c'était vraiment son rôle. Donc, il y a un rôle à jouer, puis ça dépend de qu'est-ce qu'on veut faire. Dernière question et non la moindre, mais ce n'est pas la dernière parce que c'est l'avant-dernière. Quand on construit un portefeuille, est-ce que la structure des droits de vote devrait faire partie de notre analyse?
Ouais, je vais, tu sais, dans le fond, un peu modifier la question pour y répondre. Ce qu'on cherche, c'est la qualité de la gestion. Et puis oui, la structure d'actionnariat puis de vote, ça rentre un peu en ligne de compte. Tu sais, est-ce que c'est super important là, dans l'arbre décisionnel? C'est pas la question 1 ou 2 qu'on se pose. Mais est-ce que c'est une bonne équipe de gestion qui a pris des bonnes décisions au fil des années puis des décennies? Ben oui ou non, tu sais, la raison, des fois, ça peut être à cause du du droit de vote multiple, tu sais, un mauvais gestionnaire peut rester en place parce qu'il y a des droits de vote multiples. Donc, si on se rend compte, en fait, que la compagnie est pas gérée à notre goût, bon, la raison est plus ou moins importante. T'sais. On va juste pas investir dans une entreprise qu'on juge qui est pas bien gouvernée ou pas bien gérée.
Bien, puis il y a des votes aussi qui sont plus importants que d'autres votes. Hein? Donc, il y a eu des fois dans l'histoire qu'on a dit au client, celui-là, il faut voter, il faut prendre le temps de voter, puis on leur explique le pourquoi.
Ouais, moi, je me souviens d'un fonds commun de placement qui voulait fusionner avec un autre, là, sans les nommer, là, mais il y avait un impact fiscal très important pour les clients, là, ça déclenchait un gain en capital important, puis on avait suggéré aux clients. On leur avait d'abord expliqué c'est quoi l'impact, là, puis la plupart du temps, bon, voter, pas voter, on s'entend, j'ai 60 actions de la Banque Royale, il y en a des millions en circulation, que je vote ou pas, bon, on vous encourage à voter, c'est ça la démocratie, là, mais en réalité, nous, comme petits investisseurs, on n'a pas tant d'influence sur le résultat final, mais dans ce cas-ci, c'était pas nécessairement un gros fonds, puis l'impact était très négatif, puis on a suggéré aux clients, là, on recule, là, il y a plusieurs années, là, puis on a dit, vous devriez voter contre ça, parce que pour vous, ça a un impact fiscal négatif, puis on comprend que la compagnie veut faire ça pour leur bénéfice à eux, là, mais pour vous, comme détenteur d'unités, parce qu'un fonds commun de placement, on a aussi des droits de vote sur les unités, il y avait voté contre, puis finalement, la motion n'avait pas passé, puis les clients avaient donc, dans le fond, préservé leur avantage fiscal de détenir le fonds. Donc, la démocratie avait fonctionné dans ce cas-là. Moi, de mémoire, là, c'est la seule fois en 25 ans de carrière où on a vraiment dit, non, non, là, faut voter, puis non seulement faut voter contre en plus.
Exact, exact. Et concrètement, ça s'exerce comment le droit de vote?
Donc, on reçoit périodiquement des courriels. Donc, il y en a certains qui n'ont reçu un récemment, dont nous-mêmes, là, pour Waste Connection. Donc, des fois, ça arrive, là, on reçoit un courriel Valeurs Mobilières Desjardins. Il y a un numéro de contrôle, donc on doit aller s'identifier sur le site web. Des fois, les clients nous appellent, « Hey, c'est-tu une tentative d'hameçonnage? » Oui. Non, c'est légitime.
Mais c'est légitime de poser la question.
Vérifier, c'est ça.
Oui.
On peut aussi, là, si on veut suivre un peu, dans le fond, les différents votes qu'on doit faire, il existe une application qui s'appelle ProxyVote. Donc, ProxyVote, c'est la compagnie un petit peu qui gère les votes, si on veut. On crée notre compte, on s'identifie avec le courriel que vous avez donné sur Valeurs Mobilières Desjardins là, pour recevoir les avis. Puis là, ben, même si on n'a pas reçu l'avis de la compagnie, ben, toutes les compagnies qu'on détient qui passent par ProxyVote, c'est là-dessus. Et puis, on peut aller exercer notre vote. Toutes les circulaires d'information, donc là, ça, c'est un concept qu'on n'a pas mentionné, là, donc, tu sais, quand je vote sur quoi au juste? Ben, je vais aller lire la circulaire d'information qui va dire voici les sujets qui sont soumis au vote, voici les choix qu'on vous offre et voici la recommandation du conseil d'administration. Et donc, on peut aller dire oui, OK, je vote pour monsieur un tel, je vote pour telle affaire, je vote pour telle affaire. Paf, on enregistre notre vote et c'est fait. C'est comme ça qu'on vote. Les votes, c'est à l'Assemblée annuel de toutes les compagnies ou à l'assemblée extraordinaire. Par exemple, Boralex se fait racheter. Donc, il y a une assemblée extraordinaire pour traiter d'un item particulier, dans ce cas-ci, la prise de contrôle. On peut aller voter en personne. Hein. Ça, c'est le fun, puis c'est bizarre, tu as mentionné le Robin des banques. Là,
ouais.
Donc, quand on est actionnaire, ne serait-ce que d'une seule action d'une entreprise, c'est public, l'assemblée des actionnaires, on se présente avec notre action, on s'inscrit à l'avance. Puis on a le droit d'aller au micro, puis de poser une question au président de la compagnie, puis dire hey, « comment ça, vous gagnez tant de millions, puis nous, notre action a baissé de 10%, puis on a le droit de dire n'importe quoi, dans la mesure de la civilité, là.
Ouais.
Mais on peut aller poser n'importe quelle question et faire valoir nos droits en tant que propriétaire de l'entreprise. »
Ben, c'est le fun. Merci beaucoup, Martin, pour ce rappel. Je pense que c'est un rappel parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on oublie des fois, on est divorcé avec la technologie. Si vous avez des questions sur vos placements, si vous avez des questions sur votre portefeuille, sur la période de temps qu'on vit, sur votre gestion de patrimoine, notre équipe, Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi, est toujours là pour vous accompagner. À très bientôt pour un prochain épisode de À l'écoute des investisseurs.